C'était pas un soleil, c'était une lumière très forte, mais qui brûlait comme un soleil. Et il y a une multitude de gens qui s'avançaient vers ce soleil, vers cette lumière. Et bizarrement, certaines silhouettes, elles partaient en fumée, elles brûlaient. Elles disparaissaient. Et le reste des silhouettes, eh bien, elles rentraient, elles pénétraient dans la lumière, elles pénétraient dans le soleil. Et en fait, la révélation de cette vision, en fait, ce soleil, c'est Jésus. C'est cette lumière, c'est Jésus. Le Seigneur me dit, Seigneur est en train de me dire que, en fait, si on ne lui ressemble pas, si on n'est pas de la même nature que lui, on ne peut pas voir le Père. Nul ne vient au Père que par moi, le Seigneur dit. En fait, la nature de Jésus, c'est l'amour. Il nous a donné un commandement qui est plus fort que tous les autres, qui est plus fort que tout. Aimez-vous les uns les autres. Je pense que être la même nature que Jésus, c'est savoir pardonner, même sur la croix, ceux qui l'ont crucifié. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus est allé au-delà de ses sentiments, de tout ce qu'on a pu lui faire. Et bien, il a pardonné, il a aimé et nous demande de faire de même. D'être de la même nature que lui. Si on veut voir le Père un jour, il faut passer par là. Que Dieu soit loué.
Merci pour cette parole. Et je crois vraiment qu'on est dans un temps aujourd'hui là qui est particulier et on prend du temps. Mais je crois que c'est important de prendre du temps devant Dieu. Et je veux pas contrarier qui que ce soit, mais je veux vraiment qu'on prenne cette action par le Saint-Esprit de prendre du temps et de se placer devant Dieu. Et ce qui a été dit au travers de Ghislaine, ce qui a été dit au travers de l'INSEE, de Jérémie, on est dans le pardon, dans l'amour, parce que Jésus nous a aimés le premier, il s'est donné, il s'est offert. Et cette parole, elle n'était pas facile à dire, Jérémie, et vraiment je veux honorer ce courage. Mais qu'on puisse prendre quelques secondes, quelques minutes, avant qu'on passe à la suite. Mais vraiment s'examiner en disant, qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur ? Jésus a tout donné. Et non pas que tu sois parfait comme lui, parce que tu y seras jamais. Mais au travers de l'amour que lui a transféré au travers de la croix, nous avons accès à cet amour. Et c'est une question de volonté ce matin. Question de volonté, c'est-à-dire est-ce que j'ai envie ? J'ai envie d'aimer ? Est-ce que j'ai envie de pardonner ? Est-ce que j'ai envie de passer à autre chose ? Mais ça, c'est Dieu seul qui peut faire ça. Mais c'est une volonté que toi, tu peux dire ce matin. Je me lève et j'ai envie de dire oui, Jésus. Moi, j'y arrive pas parce que je suis tellement pleine de chair, pleine de haine ou de je sais pas quoi. Mais en fait, au travers de l'amour de Christ, ça, on le peut. Alors qu'on puisse prendre juste quelques secondes en disant, Seigneur, ok, je suis comme ça, mais tu m'as pardonné. Le sang de Jésus te délivre. Et tout à l'heure, quand je disais partez avec hâte, avec la ceinture, serrez à vos reins, vos chaussures et votre bâton, c'est j'y vais avec la foi, j'y vais avec l'amour, en croyant que Dieu est bien plus grand que l'Égypte qui est en face de moi. Alors, ouais, vraiment, on prend quelques secondes et on continuera, mais je crois que c'est vraiment important de parler en vérité devant le Père. Dieu ne vous juge pas. Il vous a déjà pardonné, il ne se repent pas de ce qu'il vous a donné, ce qu'il vous a accordé dans le Fils, Jésus-Christ. Merci Seigneur, vraiment que on puisse s'examiner. Merci Jésus pour la croix. Merci pour ton sang versé. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie et qui nous donne aujourd'hui. Et autant que nous le voulons, la capacité à pardonner. C'est une question de volonté, c'est pas l'émotion. C'est pas une émotion, c'est une volonté. Alors merci Seigneur pour cette force, pour cette libération. Seigneur, tu nous demandes de sortir avec hâte. Sortons avec hâte de ce qui peut nous attacher ou nous lier à quelque chose de tellement pas beau et mauvais et qui ronge nos vies et même la communion, qui altère la communion avec Dieu le Père. Merci Yeshua pour ce que tu fais, ce que tu as fait. Merci pour la puissance du Saint-Esprit qui est là, qui est présente. C'est pas une émotion, mais elle est palpable ce matin, je crois. Alors merci Seigneur. Que ton nom soit loué. Merci Père. Merci Père dans le nom de Jésus. Avant de passer à la parole et de ce que Dieu a déposé dans le cœur de Matthieu, c'est ça ? On va passer aux offrandes. Merci Élie. Et l'offrande, c'est pour le temple de l'Éternel. C'est pour le fonctionnement du temple de l'Éternel. Aujourd'hui, nous n'avons pas un temple, nous avons cette salle qui nous est accordée, alors merci Seigneur. Mais que chacun puisse donner son offrande, sa dîme, avec joie, avec action de grâce. C'est l'œuvre de Dieu, c'est pas la nôtre. C'est pas nos bâtiments, c'est juste une salle. Alors, chacun puisse donner avec action de grâce. Il n'y a pas de retenue, il n'y a pas de... Voilà, c'est pour Dieu. Et c'est ce que Dieu nous a demandé aussi, donc c'est un commandement, mais que chacun le fasse dans la liberté. Il n'y a pas de jugement non plus là-dedans, mais qu'on soit libre de donner, comme on le sent, comme on l'a reçu. Et c'est l'œuvre de Dieu. Amen. En attendant que le panier circule, eh bien je vais prier aussi pour ces offrandes, que celles-ci soient utilisées avec la volonté de Dieu. Et que cette dépense, eh bien, soit faite pour le fonctionnement du temple de l'Éternel. Merci Père pour ce que tu donnes, pour la provision. Seigneur, nous la plaçons sous ton règne, sous la seigneurie de Jésus-Christ, et qu'elles soient utilisées avec toute ta sagesse, Père. Amen. Matthieu, si tu veux nous apporter la parole.
Bonjour tout le monde. Merci Karima. Je suis tellement content d'être avec vous ce matin à Connect Grenoble. Pour ceux qui ne me connaissent pas, il y en a peut-être certains, je m'appelle Mathieu. Je suis un des responsables de l'église Connect Montélimar, votre église sœur. Et j'ai eu l'opportunité d'être avec vous ce matin. Et c'est toujours une joie pour moi d'être ici. Et je dis ça sincèrement. C'était une joie de faire ces 2 heures de route, se lever tôt pour vous. Pourquoi ? Ben parce que voilà, on est ensemble dans cette obéissance à Dieu que d'implanter des églises dans le Dauphiné. Et Grenoble, c'est la capitale du Dauphiné, donc c'est important de venir à Grenoble. Et donc je suis marié, j'ai 4 filles. Et ce week-end, tout le monde était un peu éparpillé de tous les côtés. Il y en avait au scout, il y en avait à droite, à gauche. Donc je dis, ben moi, je vais à Grenoble. donc voilà. Trop heureux d'être ici et de vivre ces temps très forts avec vous. Je vais essayer d'ouvrir mon ordi là-dessus. Et partager ce qu'il y a sur mon cœur. Alors, Jo et Lisa m'ont dit que vous faisiez une série sur le Saint-Esprit. Je vais y arriver. Tac, super. Et du coup, quand ils m'ont dit ça, ben voilà, tout de suite, en priant, j'ai eu ce passage de Luc qui m'est revenu. De Luc au moment où Jésus se rend à Nazareth. Oh, c'est bon, mais ça ira, merci. Bon, je vais quand même en profiter pour ça. Voilà, tac, mais je vais mettre tout ça de côté parce que... Voilà. Je ne veux pas me cacher derrière ce pupitre. Donc voilà, ce passage où Jésus se rend à la synagogue de Nazareth, sa ville, là où il a grandi, dans sa région en Galilée. Et du coup, c'est un passage qui est très très fort sur mon cœur parce que c'est attaché à un souvenir que j'ai vécu. Il me semble que c'était en 2015. Moi je viens d'un arrière-plan, voilà, j'ai grandi dans une famille chrétienne et dans une famille passionnée par l'église locale. Mes parents étaient aussi responsables d'église et ils m'ont transmis un peu cette passion. Et puis ça a été prophétisé aussi sur moi, vraiment l'église, tout ça, depuis que j'étais tout jeune ado. Et dans la culture d'église où j'ai grandi, tout ce qui concernait Israël, prier pour Israël, les Juifs, etc., c'était pas du tout dans notre culture, quoi. J'ai plutôt grandi dans un mouvement un peu théologie du remplacement, pour ceux qui connaissent ce que ça veut dire. En gros, ça veut dire que toutes les promesses qui étaient faites à Israël sont maintenant pour l'Église, et voilà. Et du coup, moi, mon cerveau était un peu formaté comme ça. Et du coup, tous ceux qui étaient à fond sur Israël, il y a plein de chrétiens qui ont Israël particulièrement à cœur. Et tous ceux qui étaient vraiment à fond, surtout chez les évangéliques que j'avais l'occasion de croiser, j'avoue que ça m'agaçait, quoi. Ça m'agaçait, ça m'irritait. Je me disais, mais ils n'ont pas compris la Bible, etc. Pourquoi ils parlent d'Israël du matin au soir, quoi. Et voilà. Et bon, comme je dois le confesser, beaucoup d'autres choses... aujourd'hui, 10, 15, 20 ans après, Dieu a agi en moi et j'ai dû passer par beaucoup de repentance sur beaucoup de sujets différents. Et même aujourd'hui, je prêche l'inverse sur certains sujets qu'il y a 10 ans. Donc voilà, je suis passé vraiment par la repentance et notamment par rapport à Israël, suite à ce souvenir en 2015 où mon cher papa a organisé un voyage en Israël. Et je ne sais pas pourquoi, à l'époque, avec Emmanuel, on s'est dit, tiens, on va y aller. Et pendant ce voyage en Israël, on a visité plusieurs lieux. Et je dois avouer que dès la sortie de l'avion, si vous n'êtes jamais allé, dès la sortie de l'avion, j'ai vraiment senti qu'on n'était pas n'importe où et qu'il y avait quelque chose dans l'air. C'était difficile à expliquer, quelque chose dans l'air. Et pourtant, ce n'était pas du tout ma tasse de thé, encore une fois. Mais voilà, je dois avouer avoir été assez percuté dès le début. Et dans le voyage, il y a un jour où on se retrouve à aller à Nazareth, et à visiter la reconstitution. En fait, si vous voulez, ils ont reconstitué le Nazareth du temps de Jésus, et donc ils ont reconstitué aussi la synagogue. Et du coup, je me retrouve là, et le guide qui prend le relais, c'était un guide de ce site-là, c'était un Canadien, c'était un juif, mais qui s'était converti à Jésus, donc un juif messianique, lors d'un camp. Et du coup, il nous explique ce passage-là que je vais lire maintenant. J'étais totalement étranger à toutes ces explications. Et en fait, il nous explique que Jésus, le jour où il entre dans la synagogue, comme on va le lire, il prend ce qu'on appelle, on lui tend le rouleau, vous savez, le rouleau d'Ésaïe 61. Et il va lire cette paracha du jour. Alors, je vais vous expliquer... en quoi ça consiste dans une seconde, mais d'abord je me dis quand même prions avant de lire tout ça. Seigneur Jésus, merci, merci pour ta parole, merci pour les trésors de ta parole, merci parce que même quand on est à côté de la plaque, on ne comprend pas, toi tu es toujours patient et rempli de grâce pour nous montrer les trésors de ta parole, Seigneur, et que ces passages encore aujourd'hui nous édifient dans le nom de Jésus. Amen. Donc vous savez quoi, ce qu'on va faire, c'est encore plus simple, on va le lire. Donc Jésus, rempli de puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Sa réputation se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tous faisaient son éloge. Donc juste une aparté à ce moment-là, ce qui est important de réaliser, c'est que c'est Luc, donc là on l'est dans l'évangile de Luc, et Luc qui a écrit cet évangile, On dit que c'est aussi lui qui a écrit les Actes des Apôtres. Et quand il a écrit tout ça, en fait, Luc n'a pas connu Jésus personnellement. C'était plutôt un disciple de Paul. Mais il se trouve qu'il a vécu à Jérusalem et du coup qu'il a connu beaucoup de gens qui ont connu Jésus et tout ce qui s'est passé au moment où Jésus était là. Et du coup, c'est intéressant de voir que dans l'évangile de Luc, cet épisode-là est placé dès le début. C'est dans Luc 4. Alors que si vous regardez dans Matthieu, cet événement est mentionné, mais beaucoup plus tard. Et du coup, vraiment, ce que j'ai compris au travers de ça, c'est que cet épisode-là est vraiment important. Et Luc le met à ce moment-là parce que c'est comme un manifeste, c'est comme un mandat pour ce que Jésus est venu faire sur la terre. Donc voilà, écoutez bien la suite en ayant ça en tête. Il se rendit aussi à Nazareth, où il avait été élevé, et il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Comme il en avait l'habitude, il se leva pour faire la lecture biblique. On lui présenta le rouleau du prophète Ésaïe. En déroulant le parchemin, il trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. » Il roula le livre, le rendit au servant et s'assit. Dans la synagogue, tous les yeux étaient braqués sur lui. « Aujourd'hui même, commença-t-il, pour vous qu'il entendait cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité. » Aucun de ses auditeurs ne restait indifférent. Le message de grâce qu'il leur présentait les étonnait beaucoup. Aussi, disait-il, n'est-il pas le fils de Joseph ? Alors il leur dit, vous ne manquez pas de m'appliquer ce dicton. Médecin, guéris-toi toi-même et vous me direz, on nous a parlé de ce que tu as accompli à Capernaum. Fais donc autant ici, dans ta propre ville. Et il ajouta, vraiment, je vous l'assure, aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie. Et du coup, quand vous lisez les versets qui suivent, et c'est là où on voit que c'est intéressant, alors qu'il se passe cet épisode, il y a deux réactions. Il y a ceux qui sont impressionnés par Jésus, qui disent « Ouais, mais quelle sagesse !» qui sont touchés par Dieu. Mais il y a aussi la lutte spirituelle. Hein, on ne combat pas contre la chair et le sang, mais il y a un combat spirituel qui se passe à ce moment-là. Et juste après, ils le conduisent au bord d'une falaise. Et certains veulent le mettre à mort, quoi, parce qu'ils sont tellement choqués par ce qu'il vient de dire et combien il dit que cette parole-là s'accomplit en lui à ce moment-là, qu'ils veulent le jeter par-dessus le précipice. Et merci Seigneur, il disparaît à ce moment-là. Ils ne peuvent pas faire cela. Donc voilà, et moi ce jour-là, en gros, j'arrive à Nazareth donc pendant notre visite. Et le guide nous explique tout ça et nous explique donc la paracha, comme je disais, ce que j'ai appris, c'est que c'est la lecture de la semaine. En fait, la Torah pour les Juifs est divisée en 52, en gros, morceaux. Et chaque semaine, le jour du sabbat, il est le samedi matin, il est lu la paracha de la semaine. Et ensuite, dans la semaine, ils reprennent des petits morceaux. Et ça m'a tellement, rien que quand ce gars-là expliquait, ça m'a tellement bouleversé de voir comme Dieu fait bien les choses. Et le jour où Jésus se retrouve à visiter la synagogue de son enfance, eh bien, c'est ce passage-là qui tombe. Donc le gars nous explique ça dans la synagogue et moi je commence à sentir l'Esprit de Dieu me toucher. Il n'y a pas que moi, tous ceux qui étaient on était assis comme ça sur les gradins. Et d'un coup, il se met à chanter en hébreu, ce guide canadien. Et là, la présence de Dieu vient et tout le monde en fait se met à pleurer, quoi. Il y avait une intensité. Ça a vraiment marqué ma vie. Et quelques minutes après, on est ressorti de cette synagogue qui est toute sombre. Et d'un coup, on est arrivé dans la grande lumière du soleil. Et on se regardait tous les uns les autres. Mais qu'est-ce qui vient de se passer, quoi? Et je pense que quand on a vécu ça, moi, je me suis dit, j'ai saisi un tout petit peu de ce qui s'est passé ce jour-là où Jésus a lu ce texte et qu'il a dit qu'en lui, cette écriture s'accomplissait. Et c'est important de réaliser que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre et il nous conduit. Et du coup, au verset 14 que je viens de lire, « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. » Et c'est vraiment important, alors que Jésus, on le dit, c'est la théologie parfaite. Jésus est notre modèle, Jésus est celui à qui on veut ressembler, on veut faire comme lui. Eh bien, c'est la puissance de l'Esprit qui le pousse à retourner en Galilée. Tout ça n'arrive pas par hasard. Et ça, ça nous enseigne vraiment que c'est important d'être conduit par l'esprit, d'être avant de faire. Aujourd'hui, on est vraiment dans un âge, dans une société de la performance où notre crédit vient de ce qu'on fait, de la réputation qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. On voit, moi, ça m'arrive, il y a des gens que je connais, tu vas regarder leur Instagram ou leur Facebook, wow, leur vie paraît extraordinaire, tout est magnifique. Et quand tu connais parfois ces gens-là dans la vraie vie, tu vois qu'il y a un écart, quoi. Et comme quoi, il y a vraiment cette volonté de paraître sous notre meilleur jour, ce qui est normal aussi, hein, on va pas poster que des horreurs à longueur de journée, mais c'est important de réaliser que non, c'est d'abord qui on est et la communion qu'on a avec Dieu avant de faire quoi que ce soit. Et juste avant ce passage dans Luc, il y a ce passage de Jésus qui est baptisé, vous savez, par son cousin Jean-Baptiste, et ce qui est tellement connu, où, alors qu'il y a une voix qui se fait entendre, la voix du Père qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mets mon affection ». Et au moment où le Père prononce ces paroles, il y a une colombe qui descend. Donc c'est vraiment le baptême de Saint-Esprit de Jésus. Jésus, au moment de son baptême d'eau, il y a aussi l'Esprit qui vient sur lui. Et c'est intéressant de noter que l'Esprit confirme notre identité. L'Esprit de Dieu en nous confirme notre identité. Combien aussi nous avons besoin d'être remplis de l'Esprit au quotidien. Et là, ça va confirmer notre identité. Et là, ça va nous permettre de faire des choses de la bonne place. Amen. On vient de lire « Il m'a oint par l'onction ». Et en fait, dans l'Ancien Testament, les rois, les prophètes et les prêtres étaient oints. On les oignait, un peu comme le roi David. Vous savez, quand il est jeune, au milieu de tous ses frères, c'est lui qui est choisi. On le oint. Il n'est pas roi tout de suite, mais on le oint quand même. Et en fait, l'onction annonçait qu'il y avait une mission à venir. Et les rois, les prêtres et les prophètes, il y avait cette onction. Donc, il y a cette onction qui est sur nous et avant qu'on fasse quoi que ce soit, comme Jésus nous le montre dans ce passage. Dans 2 Corinthiens, on peut lire 1, verset 21-22. « Celui qui nous lie fermement avec vous à Christ, c'est lui qui nous a oint. C'est Dieu qui aussi nous a scellés de son sceau, a mis dans nos cœurs les arts de son esprit. » Être rempli de l'Esprit, ça atteste notre identité et ça nous montre que nous sommes les enfants de Dieu. Il n'a pas mis un esprit de timidité, il a mis un esprit en nous qui crie « Abba Père ». Puisque vous êtes bien ses fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Père. Et ça, c'est vraiment une fondation. Être rempli de l'Esprit, chaque jour, la Bible dit « Soyez continuellement remplis de l'Esprit ». Sinon, on va faire les choses par nos propres forces et ça va pas être bon. Quoi. Même en tant qu'Église, il faut que ça soit une fondation. Et c'est pour ça que le temps de louange, en général, est placé au début. Et je pense que c'est une bonne chose. Il y a un bon principe là-dedans, que c'est d'abord Dieu, d'abord la communion avec lui, c'est d'abord tourner vers lui. Et d'abord, on s'assure qu'on est unis à lui au travers de la louange avant d'aller plus loin. Et ça, c'est un encouragement pour nous au quotidien aussi. Chaque jour, chaque matin. Moi, je préconise quand même plutôt le matin. Le soir, c'est bien aussi, mais ça nous conduit dans notre journée, quoi, quand on est assuré qu'on est dans cette communion avec lui. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, 14. Et ça, c'est vrai sur le plan individuel, mais c'est aussi vrai sur le plan collectif. Éphésiens 2 nous dit « En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit ». Et donc cette unité qu'on a, l'unité dont on a parlé ce matin, l'unité de l'Esprit, elle est en lui. On a parlé du temple, qu'il n'y avait pas le temple, qu'aujourd'hui on était là-dedans, mais en fait le temple, ça n'est bien sûr pas un bâtiment. Le temple, c'est toi, tu es une habitation de Dieu, toi individuellement. Et alors que nous sommes réunis, nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Amen. Et ça, c'est tellement important de réaliser qu'on ne se réunit pas juste par... parce que par habitude ou parce que c'est bien de faire comme ça, etc. Si on se réunit, c'est pour être en communion, ensemble en communion avec le Saint-Esprit. Dieu nous a ressuscités ensemble. Notre salut, il est individuel, mais il est aussi collectif. Et mon frère, ma sœur, peut-être ce matin, c'est pour toi, avant d'être dans le faire, Dieu ce matin, il t'appelle à être avec lui en communion. Et peut-être que le Saint-Esprit veut encore te rappeler ce matin ton identité. Ton identité, que tu es fils, que tu es fille, et que c'est en lui, c'est dans la présence de son esprit qui va te révéler ça. Des fois, on lit des livres, on prie, on demande la prière à d'autres, etc. Mais c'est tout simple. Lève les yeux vers le ciel. Crie à Dieu, demande-lui, viens me remplir encore aujourd'hui par ton esprit. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Amen, Seigneur, on a besoin d'être rempli. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Et Jésus, donc, dans ce passage, il nous montre des choses qu'il veut faire, rempli de l'Esprit, par l'onction de l'Esprit dont il appelait, des choses qu'il veut faire. Donc, dans ce passage, si vous avez remarqué, Jésus nous parle d'œuvres, de miracles et de paroles qu'il veut faire. Et comme ce texte est un mandat de ce que Jésus veut faire sur la terre, eh bien, il nous envoie aussi sur la terre. Et ça, c'est vraiment important. Une fois qu'on a cette réalité, qu'on est en lui, qu'on est ses enfants, qu'on est rempli de son esprit, eh bien, on peut réaliser, comme les rois, les prêtres et les prophètes de l'Ancien Testament, Dieu a une mission pour nous. Et cette mission, c'est de faire des nations des disciples. Et Dieu vraiment me chamboule encore ces derniers mois, ces dernières années par rapport à ça, par rapport à qu'est-ce qu'on fait en tant qu'Église. Et Dieu, et c'est... Je suis en train de finir un livre là, sur le réveil dont Katia, pour ceux qui étaient à la conférence, nous mentionnait en Iran. Et en Iran, sachez-le, il y a un réveil, peut-être le plus grand réveil qui soit en cours sur la Terre aujourd'hui. Parce que ben, du fait de la persécution, notamment de l'islamisme, et ben, il y a l'évangile qui se répand de manière fulgurante par des petits groupes, par des églises dans les maisons, des églises bien sûr cachées. Et Dieu agit de manière incroyable. Et vraiment... cette mission, ce mandat de Jésus, il nous le transmet aussi. On va voir un instant là ces trois manières dont il nous permet de rentrer en relation avec les gens. Mais ce que j'ai réalisé, ça me fait mal de dire ça, et je dis ça aussi devant vos responsables, comme on peut parfois être dans l'erreur. Mais en fait, si tu regardes vraiment dans la Bible, il n'y a aucun endroit où Jésus nous demande d'implanter des églises. Alors ça me fait rire parce que toute ma vie, j'ai été passionné par ça. On a prophétisé ça sur moi et l'implantation d'église, voilà. Encore une fois, le mouvement dans lequel j'ai grandi, c'était que ça, implanter des églises. Mais en fait, j'ai réalisé que Dieu ne nous a pas demandé d'implanter des églises. Dieu nous a demandé, qu'est-ce qu'il nous a demandé ? De faire des disciples. Et en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que il a dit à Pierre, hein, il a dit « Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église ». Donc sur la révélation que Pierre a eue que Christ est fils de Dieu, et bien sur ça, c'est moi qui bâtirai mon église. Jésus nous a envoyé déclarer et démontrer le royaume, mais il a dit « Je bâtirai mon église, je m'en occupe, ne vous inquiétez pas de bâtir l'église, vous, c'est le royaume ». Il nous a demandé à plusieurs reprises, il nous demande de faire des disciples. Sauf que c'est logique, c'est naturel en fait. Quand tu fais des disciples, quand tu amènes le royaume de Dieu et que ça fait que des gens vraiment découvrent Dieu et veulent devenir disciples, et ben mécaniquement, tu te retrouves avec quoi ? Des églises. En fait, c'est logique. Une église, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas une organisation. Une église, c'est un rassemblement de personnes, de disciples. Hein. C'est ce que veut dire le mot ecclésia, veut dire assemblée. C'est un rassemblement. Donc, Dieu ne nous a pas demandé... d'implanter des églises, nous a demandé de faire des disciples. Et en faisant ça, eh ben, bien sûr, on va implanter plein d'églises. Mais je trouve qu'en sachant vraiment quel est le vrai mode d'emploi de Jésus, eh ben, ça nous permet peut-être des fois de moins galérer, parce qu'il nous appelle à vivre la multiplication. Et on le voit, ici, comme chez nous, des belles églises, c'est beau et tout, mais on n'est pas encore dans la multiplication, on est dans l'addition. Des gens s'ajoutent petit à petit, souvent des chrétiens d'ailleurs, des gens qui sont déjà chrétiens. Et alors, bien sûr, il y a aussi des conversions, il y a des baptêmes, mais on n'est pas encore dans la multiplication. On est dans l'addition. Et bon, ça serait beaucoup d'autres messages pour voir comment être dans la multiplication, mais Dieu le fait. Dieu fait des disciples. J'ai cet exemple en tête de quelqu'un dans notre église qui était voisine avec un couple de l'église. Et ils ont fait ce qu'on va voir maintenant. Ils ont pris soin d'elle. Elle a été malade. Ils ont prié pour elle. Ils l'ont accueillie. Ils ont développé cette relation avec elle. Et en fait, naturellement, cette dame est venue à Christ, a accepté Christ est vraiment aujourd'hui est devenu une disciple. Mais je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. Merci Seigneur pour cette sœur qu'on aime tellement. Et on croit que toute sa famille va être touchée aussi par l'évangile. Mais c'est comme si des fois, dans notre manière d'approcher ce passage et d'amener le royaume de Dieu, eh ben, on se contentait d'amener une expérience spirituelle à quelqu'un. On va prier pour des gens, les gens vont être touchés, des fois les gens vont même vivre un miracle, mais cette chose va être, ça va être éphémère, quoi. La personne ne va pas forcément devenir disciple et donner sa vie totalement à Christ et le suivre pour le restant de ses jours. Et c'est ça qu'on veut voir. Moi, je vous le dis, hein, en tant que responsable d'église, j'ai baptisé plein de personnes qui aujourd'hui ne sont plus dans l'église, qui sont dans la nature. Et là, je pense, c'est parce qu'il y a une clé qu'il faut qu'on comprenne, que Dieu ne nous demande pas d'organiser des événements spirituels. Dieu nous demande de former des disciples. Et qu'est-ce que c'est la marque d'un disciple ? Un vrai disciple, c'est quelqu'un qui fait des disciples. Amen. Et c'est ça, la multiplication. Et ce David Watson, là, un faiseur de disciples que j'ai appris à lire là, ces dernières années, qui dit cette chose terrible en tant que, pour nous, responsables d'église, qui dit qu'une église qui n'en a pas implanté une autre au bout de 2 ans n'est pas une église, mais un club pour chrétiens. Et ça, je pense que c'est... Bon, je sais, ça me fait aussi mal à moi qu'à vous, vous inquiétez pas. Mais je pense que c'est tellement vrai. Alors, on n'est pas là pour se flageller, mais on est là pour regarder le mode d'emploi de Jésus. Et un des modes d'emploi de Jésus, c'est ce passage, et je vais aller vite parce que ça passe vite, mais qu'est-ce qu'on voit ? Des œuvres, des miracles et des paroles. Si on revient sur le passage, Jésus dit, il m'a désigné par l'onction, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et ça, c'est les paroles qu'on peut amener. Alors qu'on essaye de rentrer en contact comme Jésus avec les gens qu'il a placés autour de nous, eh ben, on a des paroles, on peut annoncer une bonne nouvelle. Aux aveugles, le recouvrement de la vue. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est les miracles. Dieu nous a donné son onction, il nous a donné son autorité pour voir les aveugles guéris, pour voir les sourds entendre, pour voir les malades guéris autour de nous. Amen. Et on en voit plein et c'est énorme. Et aussi apporter la délivrance aux opprimés. Et ça, c'est les œuvres, les choses belles qu'on peut faire pour les gens. Voilà, je ne vais pas vous lire tout le passage, mais vous connaissez ce passage où dit « Quand j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Quand j'ai eu soif, vous nous avez donné à boire. » Et en fait, voilà, il y a plein de choses dans lesquelles Dieu veut nous conduire. Dieu a mis autour de nous des gens. Des fois, on veut aller dans la mission, on veut aller dans un pays ou un autre. Non, devant ta porte, Dieu a mis des gens. Comme dans Matthieu 10 et Luc 10, vous savez, quand Jésus envoie les 12 puis les 72, il leur dit d'aller vers les personnes de paix. C'est qui les personnes de paix ? C'est les personnes que Dieu a mis autour de toi qui ont une soif naturelle d'entendre parler de lui. En fait, Dieu les a prévus, ils sont là pour que toi, tu leur témoignes. Et qu'est-ce qu'il y a comme caractéristique de ces personnes de paix ? C'est qu'eux-mêmes ont un cercle relationnel. Et en fait, ils t'invitent à, comme cette dame dont j'ai parlé, moi, si cette personne est touchée là, eh ben, ça va résonner dans tout son entourage aussi. Et qu'est-ce qu'on peut faire comme œuvre ? Eh ben, tout simplement, et là, je voulais parler de ce que mes amis à Montélimar font avec cette œuvre du camion douche. On a un couple, ils voulaient qu'on fasse des douches pour les SDF dans notre bâtiment d'église. On avait une douche, ils voulaient faire ça. Et on a réfléchi, on a dit, ah mais ça va être compliqué, ça peut générer des bagarres, tout ça avec l'alcool et tout, vous savez. Et là, on est tombé sur un ami nîmois qui avait démarré un ministère avec ses 2 filles énormes, un papa divorcé qui se met devant Dieu avec ses 2 filles ados et Dieu leur révèle ce camion douche. Et c'est un truc qui cartonne à Nîmes. Et nous, du coup, au moment où on veut faire des douches à Montélimar, on se dit, bah, tiens, on va appeler ce gars-là. Ce gars-là vient, ça cartonne tellement à Nîmes que les autorités, la ville, même Valérie Pécresse, enfin plein de politiques même assez connus et tout, sont venus voir ce David. Et ça a tellement bien marché qu'il y a une chambre de commerce, je crois, ou d'artisanat de Nîmes, ils lui ont fabriqué un camion douche tout neuf, alors que lui en avait fabriqué un. Et du coup, on a pu récupérer son camion douche. Donc d'un problème un peu logistique, on se retrouve avec un camion douche. Et là, aujourd'hui, à Montélimar, donc ça fait 2 ans que ça dure, vous avez des gens maintenant de toutes les églises de Montélimar. Donc c'est un projet qui est couvert par notre église, mais aujourd'hui qui est devenu aussi écuménique et qui quatre fois par mois parce que c'est 2 vendredis, 2 samedis, amène et ben voilà douche mais aussi vêtements, coupe de cheveux, tout ça aux amis de la rue, on s'interdit d'utiliser le mot SDF, c'est les amis de la rue. Et ça fait boule de neige dans l'église, quoi. Là, il y a toutes les églises qui sont mobilisées pour faire avec des boîtes à chaussures, des paquets cadeaux, parce qu'ils organisent un repas de Noël pour les bénéficiaires du camion douche. Et là, on voit des gens qui sont touchés par l'évangile. Là, on voit des gens qui sont touchés et qui, même des gens qui se mettent à venir au culte. Alors, ben oui, parfois, c'est un peu inconfortable parce que ben, ils n'ont pas nos codes de bons chrétiens bien élevés, vous savez, quand ils arrivent à l'église. Mais qu'est-ce que c'est bon de voir l'évangile toucher concrètement les personnes. Et je ne vais pas vous faire de l'angélisme, ce n'est pas toujours facile. Au niveau de l'alcool, au niveau des drogues et tout, la délivrance n'arrive pas comme ça toujours du jour au lendemain. Mais on voit que ça avance. Et maintenant, c'est énorme. Je fais mes courses des fois à Lidl et je parle à des gens et tout. Et en fait, tous les amis de la rue, ils connaissent tous le camion douche à Montélimar et ils y vont et il y a ces relations qui sont tissées. Et l'Esprit du Seigneur est pour nous, pour faire ce genre de choses, pour faire des œuvres qui vont attirer les personnes à lui. Hein, on dit que c'est salut par la foi et pas par les œuvres, mais quand tu es sauvé par la foi, là, ça te permet de faire les œuvres bonnes, préparées d'avance. Amen. Donc bientôt, je suis sûr qu'il y aura un camion douche à Grenoble. Ça serait je sais qu'il y en a un qui va démarrer à Annecy, normalement, parce qu'à la conférence Cœur du Père, ici, on a été mis en lien avec Cathy, et son mari, le batteur, voilà. Et du coup, je crois bien qu'il y a un camion douche qui va démarrer à Annecy. Ils vont plus vite que vous, attention. Mais c'est énorme, ce camion douche. Après, il y a aussi des miracles. Encore une fois, je vous ai dit, des fois, les miracles apportent des percées superficielles. Ben oui, c'est vrai qu'on est dans un monde où les gens ont une soif de vivre des choses et... les gens on dit qu'ils sont fermés aux choses de Dieu et tout. C'est pas vrai du tout. En fait, ils ont soif de spiritualité, quoi. Aujourd'hui, moi qui suis infirmier libéral de à mi-temps, donc je suis beaucoup en lien quand même. J'entends ce qui se passe dans les hôpitaux, etc. Aujourd'hui, vous pouvez avoir remboursé par la Sécu de l'hypnose, plein de choses comme ça. On en voit des guérisseurs dans les hôpitaux aujourd'hui. Et moi, ça me révolte, quoi. Je me dis, mais pétard, mais qu'est-ce qu'on fait, nous, quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? On se cache. Et bien souvent, on arrive, on veut parler de Jésus. Je vous le dis, les amis, j'ai découvert ça. Des fois, il faut éviter de mentionner le nom de Jésus trop tôt, de dire que je suis chrétien, de mentionner Jésus, chrétien, église. Des fois, ce n'est pas les premiers mots qu'il faut utiliser. Pourquoi ? Parce que dès que tu prononces ça dans notre société, paf, souvent, rideau fermé, et tu le vois, tu parles à la personne, tu le vois... Son regard, tac, je l'ai perdu. C'est comme un interrupteur. Et alors que Dieu veut toucher, Dieu veut amener les gens à des rencontres surnaturelles, oui, mais pas seulement. Il veut que les gens viennent à connaître sa parole, son évangile. Et c'est pour ça que ce qu'on essaye de développer maintenant, c'est de mettre les gens en contact avec la parole de Dieu. Que ce ne soit pas juste « je veux vivre une expérience spirituelle », mais que ça soit plutôt « je veux connaître Dieu ». Je veux connaître Dieu. Et connaître Dieu, parce qu'en fait, les miracles, c'est quoi ? Les miracles, ce n'est pas un but en soi. Les miracles, on dit des signes et des prodiges. Ce sont des signes, ce sont comme des panneaux indicateurs qui pointent vers l'auteur du miracle, vers Dieu. Le but, ce n'est pas que la personne soit guérie et qu'elle continue sa vie. Le but, c'est que la personne soit guérie et connaisse Dieu. Mon cher ami Olivier, que beaucoup connaissent, a vécu ça dans son travail récemment, où des personnes qui étaient beaucoup dans le développement personnel, des choses vraiment pas de Dieu, quoi. Développement personnel dans tout le côté... occulte aussi, et au bord du suicide, quoi, vraiment très 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 mal. Et il a eu l'opportunité de prier avec cette dame au téléphone qui vit dans une ville du centre de la France. Et en fait, Dieu s'est manifesté à cette personne, quoi. Dieu est intervenu, pas sur le moment là, mais quelques jours plus tard. Et Dieu est venu, sa présence est venue sur cette personne alors qu'elle était toute seule chez elle. Hein. Et d'un coup, cette femme, son mari, sont devenus chrétiens, sont venus à Christ, ont donné leur vie à Christ de cette rencontre avec Dieu. Et puis, étaient en recherche, aux dernières nouvelles que j'ai eues, étaient en recherche vraiment d'une communauté dans laquelle s'engager. Et je dis waouh, je dis là, c'est bon, merci Seigneur. Et vraiment, je vous encourage les amis, il faut qu'on prenne, Jésus nous envoie amener son royaume, il nous envoie guérir les malades. Et très souvent, notre tendance, c'est de nous focaliser sur ceux qui ne sont pas guéris ou ceux qui ne sont pas encore guéris. Mais c'est mathématique, plus tu pries, plus tu, plus tu mets ta foi en action dans la guérison, plus tu vas voir des malades guéris. Et alors que l'Esprit du Seigneur repose sur nous, et ben là, ça nous pousse à manifester le royaume de Dieu de cette manière-là. Amen. Des fois, même moi, je suis le premier surpris. Ça m'est arrivé de prier pour des gens, j'étais pas dedans, j'étais... Et la personne d'un coup est surprise. Une fois en Angleterre, je me rappelle même des jeunes qui se mettent à dire des gros mots, quoi, parce qu'ils étaient choqués. D'un coup, ce jeune homme dont la douleur au poignet disparaît était tellement choqué qu'il se mettait à dire des gros mots. Mais c'était beau, et ces trois jeunes-là, à l'époque, s'étaient vraiment donnés à Christ aussi. C'est incroyable comme Dieu confirme sa parole par des miracles. Amen. Et le dernier outil dont Jésus, voilà ce mandat que Jésus veut amener sur la terre, c'est ses paroles. Et ça, c'est important qu'il faut qu'on soit prêt à témoigner. Il faut qu'on soit prêt à témoigner à chaque instant. Et il y a vraiment cette intentionnalité. Moi, je vous le dis, je me sens repris en tant que chrétien, je me sens repris en tant que responsable d'église de ne pas être dans la multiplication, de ne pas être dans l'addition. Et il y a quelque chose il y a un principe de Dieu, je pense, qui est tellement important, c'est l'intentionnalité. Il faut qu'on soit intentionnel. Chaque jour, Dieu nous permet d'être des sources de bénédiction pour les gens qui nous entourent. Mais il faut qu'on soit prêt. Il faut qu'on soit prêt. C'est pour ça qu'il faut qu'on passe ce temps chaque jour avec Dieu, de communion, parce que franchement, moi, je vous le dis, si je n'ai pas passé un temps dans la Bible, si je n'ai pas passé un temps dans la prière avec le Seigneur, franchement, je n'ai rien de bon à donner. Je vais essayer de me forcer, je vais donner des choses de moi et ça va plutôt faire fuir les gens que les attirer. Mais alors qu'on est en communion avec lui, alors qu'on se prépare, alors qu'on est prêt à partager les choses de notre vie, dire, ben voilà, moi, tu sais aussi, il y a une époque, j'étais paumé. Moi aussi, à une époque, je galérais avec telle substance, telle addiction. Mais Dieu m'a touché, Dieu m'a libéré. Est-ce que tu as envie d'en savoir plus? Vous voyez des petites phrases comme ça qu'on peut se préparer, mais d'être prêt par nos paroles à transmettre aussi l'amour de Dieu. 1 Pierre 3,15, soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ce que tu veux faire au travers de nous. Mais bien sûr, pour revenir, c'est l'heure, mais pour revenir au commencement, tout ça, c'est ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit, du Seigneur qui nous a oint et qui nous envoie. Et c'est important d'être intentionnel, d'être dans cette volonté de partager. Peut-être je reviendrai prêcher sur cette idée de multiplication, parce que moi personnellement j'ai vraiment envie d'avancer là-dedans et de voir aussi comment on peut modifier nos schémas de fonctionnement d'église pour que ça soit pour que ça aille plus dans ce domaine-là. Je vous le dis, moi des fois, je me dis, mais on met une telle énergie à faire tourner l'église, toutes les activités qu'il y a, et c'est plein de trucs qui sont géniaux, hein. Il y a pas de souci, c'est géniaux. Mais des fois, j'en reviens à cette question personnellement, je me dis, mais est-ce que je suis vraiment en train de faire ce que Dieu m'a demandé de faire? Est-ce que je suis vraiment en train de faire des disciples? Et des fois, après, j'ai envie de mettre tout ça de côté et de dire, bon, allez, je vais dans la rue, je vais chez mes voisins, je vais chez mes... J'ai quelqu'un en ce moment... que je connais, qui a perdu sa femme que je soignais, et ben voilà, avec Emmanuel on s'est dit, ben on va être intentionnel avec cette personne là, on va l'aimer, on va être là de manière pratique. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien sûr nos temps de communion d'église sont centraux. Pourquoi? Parce que c'est comme un quartier général, c'est là où on vient s'encourager les uns les autres, c'est là où on vient se booster. Mais comme le dit, c'est d'ailleurs Julianne quoi, de la conférence qui avait dit ça à une autre époque, le moment le plus saint du culte, c'est pas le moment où on rentre dans le bâtiment, c'est le moment où on en sort. Et moi vraiment, j'aimerais bien clôturer en priant pour ça, les amis, si vous êtes d'accord, si ça vous parle, si vous avez envie de grandir avec nous, si ensemble qu'on grandisse dans ça, je vous invite à vous lever, et vraiment comme une réponse à Dieu. Et c'est pas, voilà, je me dis, on est ensemble, on est des églises qui marchent ensemble, et si on peut s'encourager les uns les autres dans la mission comme ça que Dieu a pour nous, mais aussi pour tous ses disciples, tous les chrétiens du monde, eh bien, amen. Et vous savez, les amis, Dieu m'a mis une grosse claque encore ces derniers jours. Je vous raconte ce dernier témoignage, ces derniers mois. J'étais à un mariage d'une amie très très chère cet été. Et il y avait justement un Iranien qui avait fui l'Iran au final, qui avait été deux fois en prison parce qu'il s'était converti et ils avaient implanté une église dans leur maison, et deux fois en prison. Il me raconte tout ça et je suis complètement choqué, quoi. Et il m'a dit, mais il y a un truc. Depuis qu'il vit en Europe, il s'est marié avec une Anglaise et il m'a dit, mais il y a un truc ici qui est terrible, c'est le confort. Les amis, je vous le dis, on dit oui, nous on n'est pas persécutés, c'est vrai, on a la liberté, on vit dans un beau pays, la France, où on est libre, on peut parler de Jésus, c'est génial. Et des fois on voit ces réveils dans ces pays, on dit ah mais oui, mais c'est parce qu'ils ont la persécution là-bas, donc forcément, ben oui, mais c'est vrai en plus, c'est parce qu'ils sont persécutés que Dieu agit de manière incroyable. Et Dieu encore ces dernières semaines m'a dit, et ça fait vraiment mal, mais c'est tellement vrai, il m'a dit, mais Mathieu, mais vous aussi vous êtes persécutés, il y a une persécution en France ici. En Occident globalement, dans l'Ouest. Et qu'est-ce que c'est cette persécution ? C'est le confort. On est persécuté par notre confort. En fait, notre confort agit comme un boulet qui nous empêche de rentrer dans les plans de Dieu pour nous. Parce qu'on le voit, dès qu'on est désespéré, qu'on crie à Dieu, dès qu'on a l'impression qu'on n'a plus rien, qu'on n'a plus que lui, comme par hasard, on le voit agir de manière incroyable. Mais ça, et je parlais d'intentionnalité, ça demande aussi une intentionnalité d'ouvrir les yeux, de dire Seigneur, pardon, d'être dans cette repentance, de dire Seigneur, pardon. Pardon parce qu'au quotidien, je me laisse persécuter, je me laisse polluer par ce confort. J'ai ce dont j'ai besoin, et ce n'est pas le cas pour chacun d'entre nous, donc je veux faire attention et mesurer mes mots, mais vous comprenez ce que je veux dire, les amis. On a des ressources qui sont là et du coup, on oublie que Dieu est censé être notre source. Amen. Alors Seigneur, moi je ne me mets pas en position de supériorité qui a tout compris. Tu vois que je me sens tellement... Seigneur, ça fait 30 ans que je suis actif dans l'Église, mais je me sens comme un débutant aujourd'hui, Seigneur. Mais Seigneur, avec mes frères et sœurs, on veut dire oui à ta mission, Seigneur. On veut dire oui à ta mission de faire des nations des disciples. Seigneur, merci parce que tu as mis des nations devant notre porte, Seigneur. Tu as mis des personnes, Seigneur, qui sont prêtes, qui ont soif de t'entendre. Alors, Seigneur, aujourd'hui, on veut te dire, nous voici, envoie-nous. Seigneur, pardon pour chaque fois où on rate des opportunités, où tu mets devant nous des personnes et qu'on laisse passer l'opportunité, Seigneur Jésus. Les gens ont soif, Seigneur. Je revois cette serveuse alors que la semaine dernière, pendant la conférence, on était en train de manger ensemble. Et rien que de nous voir, rien que de nous entendre rire, parler, avoir le sourire, ça l'a touchée. Elle a dit, mais on ne voit plus ça aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez ? Seigneur, fais de nous des disciples qui donnent envie à ceux qui sont autour de nous. Fais de nous des disciples qui donnent envie aux personnes de savoir qu'est-ce qu'il y a en nous. Seigneur, c'est tellement plus simple quand c'est comme ça. Oh Seigneur, Seigneur, ouvre nos yeux, Seigneur, sur ce confort, Seigneur. Seigneur, peut-être que tu nous demandes de faire des pas d'obéissance, Seigneur. Des pas d'obéissance, Seigneur Jésus, de supprimer certaines choses de nos vies, de prioriser certaines choses. Je pense aussi à nos enfants. Parfois, on demande à Dieu son appel pour nos vies, etc. Et Dieu me dit, mais regarde, Dieu t'a donné des enfants. Commence par eux. Commence par faire d'eux des disciples. Et ça ne se fait pas en leur tapant dessus, sur la tête avec une Bible. Ça se fait en passant du temps avec eux. Ça se fait en posant le téléphone. Ça se fait en discutant ensemble autour du repas. Ça se fait en ouvrant la Bible ensemble. Il y a des super... Venez me voir si ça vous intéresse. On a des super ressources pour ça. Seigneur, merci parce que tu nous invites à commencer là devant nous, Seigneur. Toi, tu es retourné à Nazareth, le lieu où tu as grandi, Seigneur. Et tu nous invites aussi à démarrer par là où nous sommes, dans notre contexte. Seigneur, je te prie pour l'église de Connect Grenoble, Seigneur. Merci parce que tu es à l'œuvre, Seigneur, et tu vas agir au travers de cette communauté, Seigneur. Tu vas agir, Seigneur, et je crois qu'il va y avoir des avant et des après, alors que tu révèles, Seigneur Jésus. Tu envoies ces gens, et par leurs paroles, Seigneur, par leurs œuvres, et par les miracles qu'ils pourront faire en ton nom, Seigneur Jésus, tu vas faire des disciples, Seigneur. Seigneur, merci parce qu'il n'y a aucun bâtiment qui nous pourra contenir cette marée de disciples, Seigneur. Nous le prophétisons, Seigneur Jésus. Nous prophétisons, Seigneur, sur ces ossements desséchés, Seigneur, toutes ces personnes que tu mets devant nous, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire. Merci Seigneur pour ton mandat pour ton Église, tes disciples rassemblés Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Et je vous propose...